Donc, au cours de cette retraite, je n'ai pas voulu mettre l'accent, on pourrait dire, sur un domaine particulier, à la différence d'autres retraites où on a mis davantage l'accent sur la Sainte Vierge ou sur la femme chrétienne. Maintenant, je vous ai dit que je voulais quand même que cette retraite soit un peu placée sous le signe de la miséricorde. Et c'est pour ça que je vous ai fait écouter en lecture de table à midi la parabole de l'enfant prodigue. Et donc là, ce soir, je vais faire maintenant aussi une petite instruction sur ce sujet de la miséricorde de Dieu. Je vous disais au début de la conférence sur le péché que c'est très important de ne jamais détacher la perception du péché de la perception de la miséricorde de Dieu, de la perception de notre misère, de la perception de la miséricorde de Dieu. Donc, quand on a péché, ou quand on prend plus conscience du péché, la tendance naturelle, c'est d'un peu de se replier sur nous-mêmes. Soit d'être très honteux de nous-mêmes en disant « Pourquoi t'as fait ça ?» Donc, il y a un peu notre l'orgueil blessé un petit peu. T'as pas honte d'avoir pu agir comme ça. Donc, on a une attitude un peu de repli sur nous-mêmes. Et ou alors, après aussi, on se dit « Mais est-ce que Dieu va me pardonner ?» Donc, manque de confiance. Et donc, c'est capital d'essayer toujours de reprendre le dessus le plus rapidement possible pour se plonger dans la miséricorde de Dieu. Il y a aussi d'autres âmes qui se découragent et qui même parfois perdent l'état de grâce. Et du coup, après, elles plongent toujours plus bas parce qu'après, elles se disent « Bon, un péché de plus, un péché de moins. » Et puis, du coup, elles s'enferment un petit peu dans leur péché. Donc, il faut toujours se dire que le Dieu ne décourage jamais, vous voyez, le bon Dieu, il encourage. Donc quand on est dans une phase de découragement, on n'est pas dans une phase positive, donc une phase, enfin en tout cas, dans une phase qui est bonne. Donc il faut essayer de sortir de ce découragement. Et donc on a l'impression que le démon, avant le péché, a tendance à l'enjoliver, vous voyez, à embellir le péché, parce que le péché c'est moche, c'est pas beau, c'est laid, et ça offense le bon Dieu. Mais le démon va essayer de montrer le péché sous un jour favorable, en montrant que c'est quand même pas si grave que ça. Bon, il va l'enjoliver en quelque sorte pour nous attirer vers le péché. On voit bien, par exemple, que déjà Ève, lorsque elle a été tentée par le serpent, quand elle a vu le fruit défendu, que le fruit défendu, il était beau à voir, donc beau à voir. Donc il y a une présentation qui est faite par le démon du péché, donc sous un jour attrayant. Et une fois ensuite qu'on plonge malheureusement dans le péché, alors là au contraire, il va sur le moment, au moins pour une âme qui a un minimum de conscience, il va salir encore plus, enfin nous plonger encore plus bas si vous voulez, et si bien qu'il va encore noircir encore davantage le tableau, en disant comment t'as été capable de faire une chose pareille, t'as pas honte, hein? Et du coup, par rapport à ça, eh bien on peut avoir à ce moment-là tellement honte qu'on se dit, ouais, j'arriverai jamais à m'en sortir, est-ce que le bon Dieu me pardonnera? Et donc c'est capital pour pouvoir sortir de ce cercle-là, tout de suite, pour remonter à la surface, de porter un regard vers la miséricorde de Dieu. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette instruction ce soir sur la miséricorde. On peut dire que tout l'évangile nous crie la miséricorde de Dieu. Donc ce n'est pas, si vous voulez, un petit passage choisi qui nous montre la miséricorde, c'est vraiment tout l'évangile qui nous crie la miséricorde de Dieu. Rien que déjà que la venue de notre Seigneur en ce monde, vous voyez, le fait que Dieu se soit fait homme pour nous racheter, c'est bien un signe de miséricorde. Le bon Dieu aurait très bien pu, en stricte justice, le bon Dieu n'était pas tenu de venir sur la terre pour nous racheter. Donc le fait que Dieu ait accepté de se faire homme pour nous racheter est vraiment un signe de miséricorde. C'est le signe qu'il nous aime. Et ensuite après, que ce soit les paroles de notre Seigneur, que ce soit ses actions, que ce soit ses souffrances aussi, sa mort, sa résurrection, son ascension, tout là encore nous révèle cette même miséricorde de Dieu. Je prends simplement des passages glanés ça et là, si vous voulez, dans l'évangile, pour vous montrer, pour illustrer ses propos. Tout d'abord, quelques paroles de notre Seigneur, en pensant toujours que notre Seigneur c'est Dieu qui parle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc notre Seigneur nous révèle ici l'intention de Dieu en envoyant donc son Fils dans le monde. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde? Eh bien, il nous dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc voilà l'intention de Dieu en décrétant le mystère de l'incarnation. Saint Jean chapitre 3, verset 15. Et c'est notre Seigneur qui parle dans ce verset. Ensuite, notre Seigneur nous dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Donc, notre Seigneur est venu appeler les pécheurs, et nous sommes tous pécheurs. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. « Ou encore, venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. » Donc, c'est précisément dans le moment où on est dans la peine, où on a du mal, que parfois on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Et bien spécialement dans ces moments-là, c'est le moment où on doit faire cet acte de foi, et cet acte d'espérance, et cet acte d'amour, de se tourner vers le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Donc c'est un bel acte de foi que de se tourner vers notre Seigneur au moment de ces difficultés. Et je pense que même pour vous, à l'égard de vos enfants, pour celles qui sont mariées, c'est important d'apprendre à vos enfants à offrir ainsi au bon Dieu leurs peines, leurs petites difficultés, qui sont à leur mesure, mais pour que toujours dans leur vie, ils apprennent à avoir cette attitude. Voyez. Tout ce qui est souffert doit être offert. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et donc, en entendant ces paroles, il faut se dire que ce que notre Seigneur a dit à ses contemporains, il le dit aujourd'hui, aux hommes d'aujourd'hui. Et ce qu'il dit aux hommes, il me le dit personnellement. Vous voyez, Dieu n'aime pas les âmes en série. Il aime les âmes individuellement. Donc Dieu m'aime, je suis aimé par Dieu. Et c'est capital d'avoir cette conviction forte, vous voyez, que je suis aimé de Dieu. Parce que c'est dès lors que je suis convaincu de cela, ben c'est ce qui va me porter vers Dieu. Si j'ai l'impression que le bon Dieu m'aime pas, ben j'irai pas vers lui. Et plus j'aurai cette conviction forte que je suis aimé de Dieu, eh bien plus j'aurai cette attitude spontanée de me jeter donc à ses pieds. Donc voilà pour quelques paroles. Maintenant les paraboles, spécialement de Saint-Luc, puisque Saint-Luc est l'évangéliste de la miséricorde. Saint-Luc qui était médecin, et qui était en même temps donc médecin grec, et qui a surtout mis l'accent sur cette miséricorde de Dieu. C'est lui qui raconte l'histoire de la brebis perdue. Et il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Saint-Luc chapitre 15, verset 7. Et nous avons tous besoin de repentir parce que nous sommes tous pécheurs. Mais ça, je l'ai encore beaucoup mieux compris, je dirais, depuis que je suis prêtre. Hein. Parce que, bon, en étant plus jeune, bon, j'ai jamais lu ces passages, bon. Je me dis, non, il y a sans doute qui sont heureux, bon, les saints au ciel, ou les anges au ciel, lorsque un pécheur se convertit. Mais depuis que je suis prêtre, je l'ai encore mieux saisi parce que je l'ai constaté par moi-même. Nous aimons confesser tous nos bons fidèles. Mais lorsque nous avons un gros poisson, ben nous sommes encore plus contents. C'est comme ça. Et il y a une vraie joie que le bon Dieu communique aux prêtres lorsque des gens qui reviennent de loin donc s'approchent du prêtre. Le premier Noël comme ça que j'ai passé donc à Lyon, c'était en 88, donc 3 mois après mon ordination. Nous n'avions pas de... Donc le prieuré était tout petit. Pour expliquer aux prêtres ce qu'il fallait éviter dans la conception du prieuré, Mgr Lefebvre prenait l'exemple de Lyon. Il parlait de l'enfer de la rue de Marseille. Donc c'est là que j'étais nommé, mon premier poste. Alors donc c'est vrai que c'était tout petit et on n'avait pas de jardin, on n'avait rien, bon... Alors, de temps en temps, j'allais au bord du Rhône dire mon office. Donc, c'était comme ça que, pour pouvoir prendre un peu l'air, donc j'allais au bord du Rhône réciter mon office. Et donc, voilà que le soir de Noël, je vais, donc dire les matines au bord du Rhône. Donc, à 100 mètres du prieuré. Et en rentrant au prieuré, je croise un monsieur qui me dit, ah, mon père, je suis content de vous voir. À quelle heure est la messe de minuit chez vous? Ah, ben, la messe de minuit, elle est à minuit chez nous. Ah ouais, alors c'est pas comme aujourd'hui, on fait les messes à 9h, 10h, ça n'a plus aucun sens. Ah, vous avez raison, monsieur, c'est mieux les messes de minuit. Venez à la messe. Oh, je sais pas. Oh, ben, venez au moins voir la crèche. Alors, comme on était juste à 50 mètres du prieuré, Donc il me suit, donc dans la direction du prieuré, et puis on rentre au prieuré, donc on rentre dans la chapelle, et là je lui montre, je m'apprête à lui montrer la crèche. Donc je rentre dans la chapelle, je prends l'eau bénite, donc je me signe, donc il fait comme moi, je fais ma génuflexion, donc il fait sa génuflexion derrière moi, et en ce moment-là, donc on n'était que tous les deux, il n'y avait personne en ce moment-là, les fidèles n'étaient pas encore arrivés, et il me dit, ah, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous en prie. Ah oui, je voudrais me confesser. Ah, ben alors, pourquoi pas, hein? Ouais, mais seulement, il y a un problème qui me dit, c'est que ça fait très longtemps que je me suis pas confessé. Mais c'est pas grave. On est que tous les deux, j'ai tout mon temps, donc, ça se passera très bien. Et puis finalement, donc, il s'est confessé. Donc cet homme, visiblement, a eu une grâce actuelle au moment où, paf, il rentrait dans la chapelle. Donc, c'est vrai que ça m'a marqué aussi parce que c'était le premier Noël, mais c'était une des grâces, vous voyez, reçues dans le ministère. Et une autre fois, c'était, alors pour un autre cas qui m'a marqué, bon, je ne vais pas tout raconter, toutes les histoires, parce qu'on n'en finirait pas, mais un monsieur de 92 ans qui s'était pas confessé depuis la guerre 14-18. Hein. Donc, il s'était disputé en ce moment-là. Il avait fin d'adolescence. Moi, j'étais disputé avec un curé. Moi, j'ai pu remuer les pieds à l'église. Donc, c'était à la fin de la guerre 14-18. Et puis, alors, il voulait pas se confesser. Et sa femme, donc, toute sa vie, avait supplié le bon Dieu pour qu'il se confesse. Et puis, donc, l'avait tanné pour qu'il se confesse. Et puis, il y avait rien eu à faire. Et puis, finalement, donc, je suis allé le voir plusieurs fois, en espérant, donc, qu'il finirait par faire le pas. Et puis, il me disait ce qui m'avait rassuré entre guillemets, mais il m'avait dit, je me confesserai sur mon lit de mort. Enfin bon, je me dis, pourvu qu'il ait un prêtre sur son lit de mort, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, donc, le temps a passé, et donc, je suis allé le voir plusieurs fois, donc, à la première année de mon ministère. Après, bon, pris par le temps, je ne l'ai plus revu. Et puis, un jour, sa femme m'appelle et me dit, mon mari, c'est la fin. Alors, j'arrive. Et puis, je cherche à... Il avait encore toute sa connaissance, il m'a bien reconnu. Et je savais qu'il n'avait vraiment pour très peu de temps. Et alors, la première fois, donc, il m'avait parlé d'histoire d'années-lumière, j'avais pas très bien compris. Donc, elle était encore avec ses années-lumière, à 2 jours de la mort. Et alors, je lui ai dit, maintenant... Enfin, c'est quand même quelque chose de très sérieux, parce que... Là, vous m'avez toujours refusé de vous confesser, mais vous m'avez dit que vous vous confesseriez sur votre lit de mort. Alors, moi, je ne suis pas le bon Dieu, je ne sais pas peut-être ce qu'il va vous rappeler à lui, mais sachez que là, maintenant, c'est un moment très important pour vous, très grave. Donc moi, ce que je veux, c'est que vous me dites oui ou vous me dites non, mais je veux une réponse franche et claire, en sachant que demain, ce sera peut-être trop tard. Et donc, il a fini par dire oui, et donc, il s'est confessé. Donc c'est vrai que c'était ensuite une grande joie ce soir-là pour moi. Donc vous voyez, donc à travers les paraboles de notre Seigneur nous parle de cette joie qu'il y a au ciel pour un pécheur qui se repent, et qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et je disais que les prêtres le constatent dans le ministère. Et puis aussi, une autre constatation aussi, c'est que c'est arrivé, j'en ai parlé à des confrères, c'est qu'il n'est pas rare les jours où un gros poisson nous vient, qu'on ait des embêtements ce jour-là, auparavant. Et on a l'impression que le démon est au courant, donc nous, on n'est pas au courant, donc on sait pas trop ce qui se passe. On se dit, on a l'impression que tout va de travers aujourd'hui, on sait pas trop pourquoi. Mais après, quand le gros poisson est là, on se dit, ah, bah alors, maintenant j'ai compris. On a l'impression qu'il sait à l'avance, en fait, qu'il va y avoir ce que la personne va faire, et du coup, enfin voilà. Ensuite, la drague égarée. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Toujours en Saint-Luc, chapitre 15, verset 10. Ou la parabole que vous connaissez bien, donc que nous écoutons en ce moment, de l'enfant prodigue. Manifestation encore de cette grande miséricorde de Dieu. Vous pouvez aussi prendre le temps de lire en Saint-Jean le bel épisode du dialogue de notre Seigneur et de la Samaritaine. Saint-Jean, chapitre 4, verset 1 à 42. Ça, c'est très très beau parce qu'on voit cette pédagogie de notre Seigneur, voyez, vis-à-vis des pécheurs. Notre Seigneur va s'approcher de la Samaritaine alors que donc il est en route vers Jérusalem, il s'arrête donc au puits de Jacob, et là il voit cette Samaritaine, tandis que les apôtres sont partis chercher le casse-croûte pour midi. Et il commence par demander à boire à la Samaritaine. Donc, en quelque sorte, il se soumet à elle, vous voyez. Donc, il y a un geste de notre Seigneur purement humain. C'est « donne-moi à boire ». Donc, par là, c'est ce qu'on appelle la captatio benevolentiae. Donc, il cherche à capter la bienveillance de cette femme. Et c'est la première attitude. Et puis après, notre Seigneur, une fois qu'elle lui donne à boire, eh bien, lui dit, mais si tu savais qui j'étais, eh bien, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Bon, il me demande à boire, parce qu'il n'a pas, donc il n'a pas d'eau. Et puis maintenant, il me dit que c'est lui qui m'aurait donné à boire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et donc, du coup, eh bien, petit à petit, notre Seigneur va l'élever de cette eau matérielle à l'eau spirituelle de la grâce qu'il veut lui communiquer. Et puis, à la fin de la conversation, qui dure un certain temps, il va lui dire, va chercher ton mari. Et alors, on se m'a dit, ben, j'ai pas de mari. Alors, tu fais bien de dire que t'as pas de mari, parce que t'en as eu cinq, et celui avec lequel tu vis n'est pas le tien. Donc, notre Seigneur finit par, vous voyez, par mettre le doigt sur la plaie. Mais avant de mettre le doigt sur la plaie, il y a eu toute la démarche, si vous voulez, positive, qui a précédé. S'il n'y a pas eu cette démarche au départ, eh bien, jamais, la Samaritaine ne se serait convertie. Donc, on voit très bien dans l'attitude à avoir vis-à-vis des pécheurs, qu'il y a deux attitudes opposées. L'attitude libérale, ou écuménique, si vous voulez, c'est justement le verre de l'amitié. Notre Seigneur a pris un verre sympa avec la Samaritaine. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cet aspect-là, mais notre Seigneur ne s'est pas arrêté là. Petit à petit, il a conduit la Samaritaine, eh bien, beaucoup plus haut, jusqu'au moment où il a mis le doigt sur la plaie, et il a finalement converti la Samaritaine. Et puis l'attitude sectaire, qui consisterait au contraire à se dire « Ah non, moi je discute pas avec une femme comme ça, puis d'abord les cinq maris, qu'elle se mette en règle avec le bon Dieu, puis après on verra ». Et donc là, c'est l'attitude encore extrême, vous voyez. Donc on sent bien que l'attitude catholique est une attitude de juste milieu. Et là, notre Seigneur est Dieu, donc c'est lui-même qui... C'est cette pédagogie, en fait, qu'il a utilisée pour cette âme, et qu'il utilise encore aujourd'hui, souvent, vis-à-vis des âmes. Saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 42. Ou encore, vis-à-vis de la femme adultère, notre Seigneur, eh bien, va dire, alors que les Juifs étaient prêts à la lapider, notre Seigneur va leur dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Donc, je ne te condamne pas, miséricorde, vous voyez, mais désormais, ne pêche plus. Donc là, ça montre bien encore la nécessité après de chercher à rompre avec le péché. Donc, notre Seigneur ne dit pas, « Je ne te condamne pas, n'importe comment on ira tous au paradis. » Non, pas du tout. Il dit, « Ne pêche pas. » Mais ensuite, après, il dit, je ne te condamne pas, mais après, il dit, va, et désormais, ne pêche plus. Miséricorde encore qui apparaît à travers les miracles opérés par notre Seigneur. Les miracles que notre Seigneur opère sur les corps sont l'indice également de l'action que notre Seigneur veut opérer sur nos âmes. Alors, on le voit spécialement pour certains miracles qui sont peut-être plus, où le lien est plus net. Comme par exemple la guérison des 10 lépreux. La lèpre, vous voyez, est une image du péché. Donc ce que la lèpre produit sur le corps, le péché le produit sur l'âme. Eh bien notre Seigneur, en guérissant ces 10 lépreux, montre le désir qu'il a de nous guérir de la lèpre du péché. Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Ou encore ce lien maintenant alors entre les miracles physiques, donc de guérison physique, et la guérison de l'âme, c'est la guérison du paralytique, où notre Seigneur dit clairement, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, dit notre Seigneur au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. » Saint Matthieu, chapitre 9, versets 6 à 8. Alors c'est vrai que le péché est un petit peu une image du péché, c'est encore la paralysie, puisque dès lors qu'on tombe en tout cas dans une faute grave, on est paralysé parce qu'on ne peut plus avancer spirituellement. Donc notre Seigneur qui a guéri ce paralytique montre comment il veut eh bien nous aider à nous mouvoir vers Dieu en nous rendant la grâce perdue par le péché. Cette miséricorde qui apparaît donc tout au long de la vie publique de notre Seigneur est peut-être encore plus criante à l'approche et au moment de la Passion. À l'approche de la Passion, la dernière déclaration publique avant sa Passion. Dernière déclaration publique, notre Seigneur sait très bien quand est-ce qu'il va rendre son âme à Dieu, et donc par conséquent, eh bien, toutes les paroles qu'il prononce sont des paroles qui sont bien choisies et choisies au bon moment. Et notre Seigneur donc dit clairement, montre clairement la fécondité de sa mort par deux considérations. Il dit « Voici venir l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Notre Seigneur va être glorifié en acceptant de mourir pour nous sur la croix. Donc c'est par là qu'il va rendre gloire à son Père. Et il ajoute « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Saint Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Donc là aussi, c'est vrai qu'on aimerait toujours voir le résultat de nos prières, le résultat de nos sacrifices. Mais ça arrive assez souvent que le bon Dieu, eh bien, attende notre propre mort, en fait, pour que tous les fruits de notre vie puissent apparaître davantage, vous voyez. Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez, n'a pas vu tout de suite la libération de notre pays. Elle a offert sa vie, eh bien, pour notre pays. Et ce n'est qu'après sa mort que le pays a été libéré de l'injuste envahisseur. Là encore, aussi dans mon ministère, parmi, les personnes que j'ai dû accompagner pour le grand passage, en 93, j'avais organisé un pèlerinage à Fatima avec mes fidèles. Et au cours de ce pèlerinage, il y avait un ménage dont le monsieur était malade parce qu'il faisait de l'asthme. Et un asthme qui était vraiment très très fort, donc au point que à Fatima, donc il avait fallu qu'on s'occupe spécialement de lui. Mais finalement, à la fin de cette année-là, c'est sa femme qui est tombée gravement malade. Et elle avait un cancer au cerveau qui était inopérable. Et donc, elle est partie, elle nous a quittés finalement en 3 semaines, donc c'était quelque chose de très brutal. Mais quand je suis allé la voir à l'hôpital, elle avait 69 ans, tout de suite, elle me dit, « Monsieur l'abbé, si c'est mon heure, je suis prête. » Donc c'est beau de voir cette attitude, vous voyez. Alors je lui ai donné l'extrême-onction, elle a reçu avec un grand esprit de foi, et puis bon, comme c'est le cas très souvent, donc elle était très apaisée par ce sacrement, au point que les infirmières après disaient « Tiens, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous trouve toute rayonnante. » Alors elle expliquait « Ben voilà, j'ai reçu l'extrême-onction. Ah bon, c'est quoi ?» Donc elle a pu faire un peu d'apostolat. Et la seule chose quand même qui la gênait énormément, si vous voulez, dans qu'elle était prête pour paraître devant le bon Dieu, mais sa souffrance, c'était qu'elle avait 2 petits-enfants qui n'étaient pas baptisés. Donc elle avait beaucoup de petits-enfants, mais l'un de ses enfants n'avait pas fait baptiser ses 2 enfants. Et donc ça, c'était sa seule souffrance. Donc elle m'a dit, s'il n'y avait pas ça, eh bien là, je serais vraiment libéré, quoi. Eh bien, donc cette dame est décédée. Et finalement, eh bien, après l'enterrement, donc son fils a décidé de faire baptiser ses enfants. Donc finalement, j'ai pu baptiser les petits-enfants, mais après la mort de cette dame. Donc elle a beaucoup souffert pendant sa vie pour que ses petits-enfants soient baptisés. Et puis finalement, c'est peu de temps après sa mort que ça s'est fait. Enfin, je pourrais donner d'autres exemples, mais bon. Donc notre Seigneur disait lui-même, si le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il reste seul, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc cela doit nous inviter à une grande patience quant au résultat de notre propre apostolat. Et ensuite notre Seigneur dit, c'est maintenant que va avoir lieu, donc deuxième parole qu'il prononce dans la dernière déclaration publique, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est le démon. Et moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc quand je serai élevé de terre, quand je serai sur la croix, j'attirerai toutes les âmes à moi. Donc notre Seigneur montre par là la fécondité de sa mort. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir l'attitude de notre Seigneur au cours de sa passion. Ben nous-mêmes, quand des gens nous font des crasses, eh bien en général, on réagit mal. Face au mal, on réagit mal. Oui. Et là, ce qui est vraiment admirable dans l'attitude de notre Seigneur dans sa passion, c'est que face au pire tourment, eh bien notre Seigneur garde toujours un cœur miséricordieux. Ainsi, par exemple, il va susciter le repentir de Saint-Pierre par son regard, Saint-Pierre qui vient de le renier par 3 fois. Lorsque notre Seigneur sort de chez Caïphe, Saint-Luc nous dit, évangéliste de la miséricorde, Saint-Luc nous dit, le Seigneur, se retournant, arrêta son regard sur Pierre. Donc le mot « se retournant » est très important parce que il montre bien que, si vous voulez, que ce n'est pas par hasard, en fait, que les regards se sont rencontrés. Il montre aussi que ce n'est pas Saint-Pierre qui a cherché à regarder notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui a cherché à regarder Saint-Pierre. Parce que notre Seigneur voulait changer le cœur de Saint-Pierre. Vous voyez. On voit par là ce cœur miséricordieux de notre Seigneur qui va chercher le pécheur pour le ramener à lui. Donc le Seigneur, se retournant, arrêta son regard sur Pierre. Et quand il est fait mention du regard de Dieu dans la Sainte Écriture ou de notre Seigneur, c'est toujours un regard de miséricorde. Le bon Dieu étant amour, le regard qu'il porte sur nous est toujours un regard d'amour. La grande crainte qu'on pourrait avoir, c'est que Dieu ne nous regarde pas, que Dieu nous détourne son regard de nous. Ça, ce serait la plus grande, ce serait une marque de réprobation. Mais tant que nous sommes sur la terre, notre Seigneur nous regarde, parce qu'il veut en fait notre salut. Le Seigneur, se retournant, arrêta son regard sur Pierre. Alors, réaction de Pierre en ce moment-là. Pierre se souvint alors de la prédiction de sa trahison, et il pleura amèrement. Saint Luc, chapitre 22, versets 61-62. Donc Saint-Pierre, voyez, à travers ce regard de notre Seigneur, a tout compris. Il a compris à la fois la gravité de son péché, mais il a compris en même temps que notre Seigneur était prêt à lui pardonner. Donc il a vu à travers ce regard de notre Seigneur à la fois la gravité de la faute, mais en même temps aussi la grandeur de la miséricorde. Et ça, c'est une grâce à demander au cours de la retraite, de pouvoir croiser ce regard de notre Seigneur pour découvrir à la fois eh bien, ce qui, dans notre vie, a pu faire de la peine à notre Seigneur, et puis en même temps aussi découvrir cette miséricorde infinie. Notre Seigneur, donc, cherche à convertir les âmes au moment de sa passion. On le voit au sortir de chez Caïphe. On le retrouve à la 8e station du chemin de la croix, tel que nous le faisons aujourd'hui, vis-à-vis des femmes de Jérusalem. Encore un passage de Saint-Luc. Or, il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se retournant vers elle, dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Donc Jésus, se retournant vers elle. Vous voyez, notre Seigneur, à nouveau, se retourne vers les femmes de Jérusalem pour les convertir. Si maintenant nous analysons les sept dernières paroles de notre Seigneur sur la croix, nous pourrons constater encore que ce sont des paroles essentiellement de miséricorde. La première parole, alors que notre Seigneur, eh bien, a subi donc des souffrances atroces et physiques et morales, alors qu'il n'entend autour de lui que blasphème, que haine, la première parole qu'il prononce est une parole de miséricorde. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Luc, chapitre 23, verset 34. Donc on voit par là les dispositions intérieures de notre Seigneur sur la croix. Sur la croix, notre Seigneur oublie ses souffrances et ne pense qu'au péché pour prendre notre défense. Et cette parole a dû être prononcée d'une façon si éloquente, si vous voulez, qu'elle a touché notamment l'un des larrons qui se trouvait sur la croix. D'après les évangélistes, au début, les deux larrons blasphémaient. Mais l'un des deux, eh bien, en entendant notre Seigneur prononcer cette parole, eh bien, va se convertir. L'un des voleurs, suspendu en croix, le blasphémait en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec ». Mais l'autre le reprenait, donc un petit peu après, en disant « Toi non plus, tu ne crains pas Dieu, toi qui es condamné au même supplice. » Et en ce moment-là, donc, il va commencer par reconnaître sa faute. Vous voyez, le bon larron aura cette grâce, un signe de recevoir la parole si consolante de notre Seigneur qui va lui promettre le paradis, mais après qu'il ait reconnu sa faute. Encore pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos œuvres. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Donc pour pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu, il faut reconnaître notre misère. C'est la condition. Nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos œuvres, mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 41. Et alors il disait à notre Seigneur, Seigneur, souvenez-vous de moi lorsque vous serez arrivé dans votre royaume. Et notre Seigneur de lui dire, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Et à ce sujet, il y a un commentaire de saint Augustin sur cette attitude du larron. Il se demande comment le larron a été capable, en fait, de prononcer une telle parole, lui qui était un brigand. Alors voici le commentaire de saint Augustin. Quand le bon larron a cru, qu'a-t-il dit ? Souvenez-vous de moi lorsque vous serez arrivé dans votre royaume. Ô larron, à qui dis-tu votre royaume ? Et quoi ? Tu vois un crucifié et tu le proclames roi ? Tu as sous les yeux le spectacle d'un homme attaché à une croix et tes pensées se portent sur le royaume des cieux ? Est-ce que pour faire trêve à ton métier de brigand, tu as pris le temps de lire les Écritures ? Est-ce que tout en commettant des homicides, tu as eu le temps d'écouter les prophètes ? Tous les jours, tu étais occupé à verser le sang. Et tu as eu le loisir de prêter l'oreille à la parole de Dieu ? Qui est-ce qui t'a appris à devenir philosophe ? C'est la croix, devenue instrument de ton supplice, qui te fait reconnaître et proclamer le triomphe du Christ. Donc, premier motif, si vous voulez, d'un retour à la raison, la souffrance. C'est vrai que 9 fois sur 10, c'est dans la croix, dans la souffrance, qu'on revient vers Dieu. C'est d'ailleurs aussi ce que disait Mgr Chevreau, donc, en lecture de table. Bien qu'ils sachent la loi et qu'ils aient lu les prophètes, les juifs le crucifient. Et toi, qui ne connais rien, ni à la loi, ni aux prophètes, tu vois le Christ condamné avec toi et tu le proclames Dieu. Tu vois le crucifié et tu l'adores. Qui est-ce qui t'a appris les oracles relatifs à sa personne pour que tu annonces hautement l'entrée prochaine dans son royaume de celui qui partage sous tes yeux tes douleurs? Alors la réponse ici, que peut faire le larron, la loi, me répond-il, ne m'a rien appris. Les prophètes ne m'ont rien annoncé. Mais le Seigneur qui était devant moi m'a regardé et son regard a percé jusqu'au fond de mon cœur. Donc là, c'est très beau encore parce qu'on va retrouver ici l'importance de ce regard de notre Seigneur pour toucher donc les âmes des pécheurs endurcis. Et cette miséricorde de Dieu, donc présente tout au long de la Passion, présente par les paroles de notre Seigneur sur la croix, va se retrouver encore par, on aurait pu d'ailleurs rajouter les autres paroles de notre Seigneur sur la croix, quand notre Seigneur dit, femme, voilà votre fils, fils, voilà votre mère, notre Seigneur qui nous donne sa mère, c'est encore un acte de miséricorde, nous donner ce qu'il avait de plus cher au monde, à savoir sa mère, ou j'ai soif du salut humain, du salut des hommes. Donc, là encore, cette soif est une parole de miséricorde. Mais ensuite, après, une fois que notre Seigneur a rendu le dernier soupir, on va voir la fécondité de sa mort par notamment la conversion du centurion. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré en poussant ce grand cri, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Donc l'efficacité de la mort de notre Seigneur et sa miséricorde apparaît dès lors que notre Seigneur rend son dernier soupir. À peine a-t-il rendu le dernier soupir que tout de suite le centurion se convertit. Et puis l'image des sépulcres aussi, qui s'ouvre avec ces corps de saints qui apparaissent, est encore une image du fruit de la Passion, à savoir justement notre résurrection. Les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps de saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Et sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils vinrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup de personnes. Miséricorde qui apparaît toujours après la résurrection, dans les apparitions de notre Seigneur. Et notamment, par exemple, dans le fait que notre Seigneur n'a pas changé ensuite son optique première, son choix premier des apôtres. Vu l'attitude lamentable que les apôtres ont eue, eh bien, le soir du Jeudi Saint, il n'est pas difficile à notre Seigneur de choisir d'autres hommes, vous voyez, pour être les chefs de son Église. Mais non. Il est resté fidèle à ce choix premier. Donc d'un côté, il va leur reprocher leur entêtement, toujours la justice de Dieu qui reste présente, mais après, il va ranimer leur espérance, c'est la miséricorde. Donc on retrouve toujours, à travers, voyez, la Passion, et même après la Passion, toujours ces deux aspects de justice et de miséricorde. La justice est présente dans la Passion, puisque Si notre Seigneur a tant souffert, c'est parce que Dieu voulait que le péché soit expié. Donc la croix nous révèle la justice de Dieu, mais elle nous révèle aussi, comme on l'a vu, la miséricorde. Et bien ici, c'est la même chose. On voit que le Seigneur va d'un côté reprocher leur entêtement aux apôtres, mais ensuite il va ranimer leur espérance. Et pour ranimer cette espérance, eh bien, il va se mettre à leur portée. Il va se laisser toucher par eux. Il va leur donner de la nourriture. Il va leur demander de la nourriture pour qu'ils puissent manger devant eux, pour bien les convaincre qu'il est réellement ressuscité. Il dira même à l'apôtre Thomas de mettre ses mains dans son côté et dans ses plaies, pour bien prouver qu'il est bien notre Seigneur ressuscité. Donc, soyons intimement convaincus que le bon Dieu est miséricorde. Non pas, bien sûr, pour en profiter, pour abuser de cette miséricorde en péchant davantage, mais pour revenir vers Dieu dès lors que l'on fait des faux pas. Et donc, ça, je pense que c'est capital pour notre vie spirituelle. Parce que la conséquence, vous voyez, de cette conviction forte de cette miséricorde de Dieu, eh bien, c'est la confiance. Vous voyez. Quand on est convaincu que Dieu est miséricordieux, bien quelle attitude d'âme ça produit en nous? La confiance. Dans la mesure où Dieu est infiniment miséricordieux, je dois avoir confiance en lui. Et cette note de confiance apparaît dans l'attitude que notre Seigneur a eue lui-même vis-à-vis de son Père en disant « Père, je remets mon âme, mon esprit entre vos mains. In manus tuas domine, commendo spiritum meum. » Et l'Église, qui est une mère, eh bien, nous invite tous les soirs à redire cette même parole, vous voyez. In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Si tous les soirs nous nous endormons, eh bien, en disant sereinement cette belle prière, In manus tuas domine, commendo spiritum meum, eh bien, j'espère qu'au moment où ce sera arrivé le moment pour nous de passer dans l'autre monde, nous aurons aussi ce courage de prononcer cette parole avec cette même confiance. Donc la confiance, elle doit se développer par des actes de confiance. Donc comment faire pour avoir confiance? Il faut développer des actes de confiance. Saint Paul avait bien cette confiance et il l'a suscité à ses fidèles. Il leur disait ceci: si quand nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, or si étant ses ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu, à bien plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés dans sa vie. Romains chapitre 5 versets 8 à 10. Donc quand le Seigneur est venu dans le monde, eh bien nous étions tous pécheurs. Et alors si maintenant, eh bien que nous avons reçu la grâce de Dieu par le baptême, eh bien nous sommes amis de Dieu. Donc dans la mesure où nous sommes amis de Dieu, nous devons avoir cette confiance. Alors maintenant, je voudrais vous donner un exemple concret, si vous voulez, de cette miséricorde, à travers un livre que j'ai eu l'occasion de lire cette année. Un livre écrit par un dominicain, enfin, c'est plutôt écrit, c'est la vie d'un dominicain plutôt, qui a été écrit peut-être par un autre dominicain. Oui, par un autre dominicain. La vie du père Lataste, livre qui est intitulé « Prêcheur de la miséricorde ». Donc, qui était le père Lataste? Donc, le père Lataste était un dominicain qui a vécu ici dans cette maison, dans ce séminaire de Flavigny, qui en ce moment-là était donc une maison dominicaine. Et il a eu une vie assez courte, puisqu'il est mort après 7 ou 8 ans de ministère. Mais pendant son court ministère, il a eu l'occasion de prêcher deux retraites à des femmes qui étaient emprisonnées à la prison de Cadillac près de Bordeaux. Donc il a prêché ces retraites à ces femmes en 1864 et 1865. Donc qui étaient ces femmes qui s'étaient retrouvées dans cette prison à cette époque? Il faut savoir que c'était une prison de force. Donc on distinguait les prisons de correctionnelles, les prisons de force, dans lesquelles beaucoup étaient condamnés aux travaux forcés. Donc quand il est rentré pour la première fois dans cette prison pour prêcher ses retraites, alors qu'il était tout jeune prêtre, il y avait 397 détenus dans cette prison. Donc elles étaient à près de 400 dans cette prison. Et sur ces 397 détenus, 199 étaient condamnés aux travaux forcés. Il disait qu'elles étaient vêtues de vêtements grossiers, avaient une couche dure, une nourriture grossière, austère, soumises à un travail tellement forcé, 12 à 13 heures par jour, 6 jours sur 7, que si le soir elles n'avaient pas accompli la rude tâche qui leur a été imposée, elles étaient jetées au cachot ou punies de peines aussi sévères. Donc 12 à 13 heures de travaux forcés par jour, 6 jours sur 7. Avec une tâche donc bien précise à remplir, et si elle n'était pas remplie, le cachot. Mais ce qui était le plus dur pour elles, d'après ce que disait le père Latasse, d'après avoir eu le témoignage aussi de ces femmes, c'était le silence perpétuel. Elles n'avaient pas le droit de dire un mot. Et toute leur vie, enfin toute leur vie, pour celles qui les avaient toute leur vie. Elles dormaient, donc elles avaient 7 à 8 heures de sommeil, simplement. Elles étaient dans un immense dortoir, donc un immense réfectoire. Et ensuite, elles avaient des récréations. Alors, dans les récréations, elles avaient un certain nombre de tours de jardin à faire. Donc il y avait une chef à chaque fois, et puis les autres devaient suivre, et toujours dans le même ordre. Et celles qui étaient malades, donc elles étaient assises, elles étaient à côté, mais toujours aussi dans un ordre bien précis. Donc c'était vraiment une vie pas facile du tout. Elles étaient gardées par, il y avait que des femmes dans cette prison, donc pour les garder, donc il y avait 4 femmes qui les gardaient, et 12 religieuses en plus, donc 4 laïcs et 12 religieuses, des filles de la sagesse. Plusieurs étaient rentrées dans cette prison, donc en 1864, à l'âge de 16 ans, de 18 ans ou de 20 ans. La moyenne d'âge, la plus grande majorité de ces femmes avaient entre 16 et 35 ans. Beaucoup étaient là pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, et plusieurs étaient là à vie. Il cite par exemple, j'en ai vu une entrée à 17 ans, qui a 48 ans aujourd'hui. Elle est là depuis 31 ans, et n'a pas d'espoir d'en sortir. Alors quels étaient les motifs pour lesquels ces femmes étaient ainsi emprisonnées? 40% d'entre elles, c'était malheureusement des crimes contre les enfants, donc soit l'avortement, qui était puni gravement donc à l'époque, l'infanticide, qui était hélas assez fréquent, donc là vous allez voir l'histoire d'une d'entre elles, l'abandon des enfants, ou encore suppression d'enfants. Après il y avait aussi vol, incendie, alors après je vous donner des mauvaises idées, empoisonnement du conjoint. L'histoire de l'une d'entre elles. J'avais 25 ans. J'étais le modèle de ma paroisse. Tout le monde m'estimait et m'aimait. Et voilà que je suis tombée. On m'avait promis en mariage et l'on m'a abandonnée. Le moment terrible est arrivé. Je n'ai pu supporter devant mes regards cette preuve irrécusable de mon déshonneur. Je l'ai étouffée. Donc elle a étouffé son bébé. Et me voilà ici et je ne puis le croire. Et bien souvent, la nuit, le jour, dans mon sommeil, dans mes repas, dans mes prières, « Est-ce bien toi ?» me dis-je, « Toi ici ?» Et je pleure, et je crois rêver. D'autres fois, je me surprends, m'arrêtant dans mon travail pour me dire les mêmes choses. Et alors une voix intérieure me crie, « Ce n'est que trop vrai, mais hâte-toi, reprends le travail bien vite, car si ta tâche n'est pas achevée ce soir, tu le sais, le cachot t'attend. » Et je me hâte pour regagner le temps perdu. Et je pleure, et je crois encore rêver, mais je vois bien enfin que je ne rêve pas. Pauvre femme. Donc le père Latasse va prêcher 2 retraites à cette prison en 1864 et 1865. Cette retraite est prêchée sur le temps de sommeil. Et il y a 2 instructions par jour qui durent à peu près 1 heure. Et donc ne viennent que celles qui veulent. Mais elles l'ont toutes suivie, dit-il, sauf 2 femmes, 2 mauvaises femmes obstinées, et quelques protestantes. Alors les protestantes se tenaient à la porte, sans oser rentrer, mais le plus près possible des autres. Alors après, il cherche à les faire réfléchir, bien sûr, sur les causes du péché, sur la vie qu'elles ont menée, pour essayer de susciter en elles une grande contrition. Et il sera certainement éloquent, mais surtout en même temps très pieux, et puis ces femmes aussi seront, beaucoup d'entre elles, très bien disposées, si bien que la plupart d'entre elles vont se confesser et recevront donc l'absolution du prêtre. Alors si je dis que moi déjà, en tant que prêtre, ça m'a fait plaisir de pêcher un gros poisson, donc vous imaginez quand on pêche des centaines de gros poissons en 5 jours, c'est sûr qu'on est encore plus heureux. Donc voici l'aveu de l'une d'entre elles. Enfin, c'était des aveux analogues, parce que là, ce sont des passages, en fait, qui sont tirés du Père Lataste lui-même, donc ce que lui-même a raconté, donc, après. « Ô mon Père, j'ai été bien coupable, j'ai bien offensé le bon Dieu, j'ai commis de grands crimes. Tel est le premier cri qui s'échappe des lèvres des prisonnières dès qu'elles ont trouvé le cœur d'un prêtre. Car elles sentent toutes leurs fautes aujourd'hui, mieux que jamais elles ne l'ont senti. Ce qui leur semblait autrefois faute légère, bien pardonnable à leur jeunesse, leur apparaît maintenant dans toute sa laideur. C'est un effet analogue à celui que doivent éprouver les âmes coupables quand, au sortir de cette vie, elles entrent au lieu de l'expiation. Le bandeau tombe, leurs yeux se dessillent, la lumière se fait, et avec la lumière se lève en elles un immense repentir. » Et donc une grande consolation qu'il a eue, non seulement c'était de les confesser, mais ensuite, la dernière nuit, il a proposé une exposition du Saint-Sacrement, en proposant qu'elles se relaient donc les unes après les autres. Mais en fait, bon, elle s'est arrangée, alors je sais pas trop comment, mais en tout cas, elle s'est arrangée pour diviser la nuit en deux. Et donc, plus de 150 se sont retrouvés pour la première moitié de la nuit, et plus de 150 pour la deuxième moitié de la nuit. Donc 300 sur les 400 prisonnières. « Quelle fut ma surprise, dit le Père Lataste, en sortant du confessionnal après 22 heures, d'en voir près de 200 à la fois, faisant leur adoration avec un silence et un recueillement qui, sans contredit, eût fait honneur à une communauté religieuse. Il fut impossible de les résoudre à aller prendre du repos avant que la moitié de la nuit ne se fût écoulée. Et alors, elle fut remplacée par d'autres, à peu près en même nombre, qui avaient attendu impatiemment leur tour. » Plusieurs m'assurèrent le lendemain qu'elles n'avaient pas pu dormir, tant elles se sentaient heureuses. Le lendemain, de bon matin, la messe et la communion générale, à laquelle près de 350 ont pris part, puis la messe d'action de grâce, puis une grand messe admirablement chantée par un chœur de jeunes détenus. Puis enfin, dans l'après-midi, les vêpres solennelles et une dernière instruction. Il était temps. J'avais besoin de changer de milieu. J'avais le cœur gros de larmes en même temps que de joie. De larmes en voyant que de toutes ces femmes et de toutes ces jeunes filles, il n'est pas une qui n'ait été flétrie au contact du monde. Pas une qui ne se soit souillée un jour et ne soit devenue grande criminelle. De joie en voyant quelles transformations miraculeuses peuvent se produire dans une âme par la souffrance et l'humiliation. Et mon cœur s'emplissait de larmes encore en songeant à la rude et sanglante vie, au poids écrasant de honte et d'humiliation, qui pesait encore et qui allait de continuer à peser encore sur ces âmes qui m'étaient devenues si chères. Et je me consolais encore à la pensée que pas une de ces larmes saintement acceptées ne serait sans sa récompense, que la voie douloureuse par laquelle il leur fallait passer était, après tout, celle où le Sauveur était passé le premier, suivi du bon larron, suivi de Marie-Madeleine, la voie qui mène droit au ciel. Et donc ensuite, après, ce qui est beau, c'est de voir, donc après cette confession et cette adoration du Saint-Sacrement, la transformation intérieure de ces âmes. Chose admirable, quand du récit de leur passé, vous en arrivez à l'état présent de leur âme, vous ne les reconnaîtriez plus. À part quelques infractions plus ou moins graves au règlement de la prison, on ne découvrirait pas, dans les plus petits replis de leur âme, une seule faute sérieuse. Elles ont même une délicatesse de conscience qui ferait honneur à bien des âmes pieuses dans le monde et peut-être dans le cloître. Alors je termine maintenant par le témoignage de ces prisonnières, montrant l'attitude qu'elles ont pu avoir après, donc une fois qu'elles ont pu soulager leur conscience dans le cœur d'un prêtre en recevant l'absolution de leurs fautes et la grâce de la Sainte Communion. « Oui, je suis bien malheureuse dans cette prison, c'est bien dur, j'ai bien souffert. Et pourtant il ne se passe pas de jour que je ne remercie le bon Dieu de m'avoir conduite ici. » Oh, je me sens si heureuse depuis que j'aime le bon Dieu. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait éprouver tant de joie à l'aimer. Je ne le connaissais pas autrefois. On m'avait dit ces choses, mais je ne les comprenais pas. Je n'y prenais pas garde. Oh, si je l'avais connu, comme je le connais aujourd'hui, je ne serais pas ici, bien sûr. Vous l'aimez donc bien aujourd'hui, pauvre enfant, leur disais-je. Oh oui, mon père, de tout mon cœur, répondait-elle, en appuyant de toute leur force sur ces dernières paroles, comme un enfant qui appuie ses lèvres bien fort sur le front de sa mère pour lui mieux exprimer tout son amour. Et disant cela, elle pleurait à chaudes larmes. Et du milieu de leurs larmes, elle ne se lassait pas de dire et de redire encore « Oh, que je suis heureuse maintenant, que je suis heureuse !» Vous ne l'offensez donc plus, le bon Dieu ? Non, mon père, non, c'est fini, pour la vie. Plutôt mourir mille fois. Et elle me disait cela avec un accent de conviction qui faisait mal, à qui savait ce qui les attend dans la vie. Et néanmoins, je les laissais dans cette heureuse illusion. Donc le père savait très bien les risques qu'il y avait de récidive après la sortie de prison. Et c'est pour ça qu'il a voulu ensuite fonder une congrégation, donc même de religieuses, pour ces femmes qui, certaines d'entre elles, s'étaient si bien repenties. Donc après, il y avait bien sûr des conditions pour pouvoir rentrer dans ces communautés religieuses, mais donc ça a fonctionné un certain temps. Et le père Lattasse donc donne en conclusion, « Parmi ces âmes si bien transformées, il en est peu, mais il en est qui sont condamnées à vie. Ce sont peut-être les mieux partagées. C'est ce que m'exprimait l'une d'elles. Dans les premiers temps, disait-elle, j'ai eu bien des tentations de découragement, de suicide même. Depuis que je connais Dieu et que je l'aime, je me suis dit, tu auras bien à souffrir toute ta vie, mais après. Ici, du moins, je suis assuré de ne pas me séparer du bon Dieu, tandis que dans le monde, si j'y retournais, je m'y perdrais peut-être. Ici, il faudrait bien le vouloir pour le faire. » Et je la confirmais dans cette pensée. « Vous êtes au purgatoire, lui disais-je. Au purgatoire, on souffre, mais l'on espère et l'on aime. Et après le purgatoire, c'est le ciel. » Donc voilà, si vous voulez, les quelques réflexions sur ces femmes qui ont malheureusement eu des écarts dans leur vie, mais qui se sont si bien repenties. Alors comme je vous l'ai dit, même aujourd'hui encore, donc la miséricorde de Dieu s'exerçait au 19e, mais continue à s'exercer encore aujourd'hui sur les âmes. Et donc cela doit être très réconfortant, surtout pour celles d'entre vous, soit celles qui reviennent de loin, ou celles aussi qui ont dans leur entourage des personnes qui sont encore aujourd'hui éloignées du bon Dieu. Donc dans le ministère, nous voyons de très très belles choses. Et donc c'est une invitation aujourd'hui à supplier la miséricorde de Dieu sur vous-même, et à supplier aussi cette même miséricorde pour qu'elle touche tous ceux qui vous sont chers. Voilà. Nous rendons à la chapelle pour une petite prière.